Place Info.
Bienvenue à toutes et à tous sur France Info Radio et Télé, le 8h30 jusqu'à 9h, avec Myriam Ankawa. Bonjour Myriam.
Bonjour Mathéo, bonjour à tous.
Journaliste à la chaîne parlementaire avec nous et notre invité ce matin qui est ministre du Logement.
Bonjour Julien de Normandie.
Bonjour.
On va évidemment évoquer avec vous dans quelques minutes la réforme des retraites et le contexte social difficile, compliqué en France. Mais justement dans ce contexte, il y a la situation de Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux retraites. On sait désormais qu'il détient 13 mandats, dont 11 bénévoles, mais qu'il avait oublié d'en déclarer 10 à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces omissions ?
Que c'est une erreur. Il a fait une erreur. Mais je crois que ce qui est important quand on fait une erreur, c'est de le reconnaître, ce qu'il a fait, et puis de les corriger, ce qu'il a fait également immédiatement. Et je crois qu'il est aussi important de souligner, très important, que derrière tout ça, il n'y a aucune volonté de dissimuler quoi que ce soit de la part de Jean-Paul Delevoye.
Vous ne doutez pas de sa bonne foi ?
Non, moi je ne doute pas du tout de sa bonne foi. Je le connais depuis longtemps, très longtemps, et je ne doute absolument pas de sa bonne foi. Donc il a fait une erreur, il l'a corrigée, il l'a reconnue. Il cherche absolument pas à dissimuler quoi que ce soit. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit, parmi tous ces mandats, la quasi-exclusivité sont des mandats bénévoles.
Mais est-ce que c'est grave ? Est-ce que cette erreur, elle est grave à vos yeux ?
Totale.
Grave ou pas comme erreur ?
Non, c'est une erreur. Mais vous savez, le sujet, quand vous faites une erreur, il faut tout de suite la reconnaître et la corriger. C'est ce qu'il a fait. C'est ça qui importe.
En quelques jours, on a quand même appris qu'il n'y avait pas eu un seul oubli, comme on le pensait au départ. Mais 10, ce chiffre de 10... Encore une fois, vous parlez d'activités pour la plupart bénévoles, mais 10, c'est beaucoup. On se dit que dans d'autres cas, certains auraient démissionné ou auraient été contraints à la démission, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, avec l'opinion publique, avec les réseaux sociaux, ça peut aller très vite.
Oui, après, il faut voir de quoi on parle. Mmh. Ces mandats, ce sont quoi ? Ce sont des postes d'administrateurs dans des fondations. Dans des fondations comme des orchestres, dans des fondations comme la fondation SNCF. Enfin, la fondation SNCF, c'est quoi ? C'est la fondation caritative du groupe SNCF. Donc voilà de quoi on parle. Après, encore une fois, il aurait dû les déclarer dès le premier jour. Il a fait cette erreur, il l'a corrigée depuis.
Alors, pas seulement, si vous permettez, parce que parmi ses mandats, Julien de Normandie, il y a sa rémunération comme président d'un cercle de réflexion sur l'éducation qui s'appelle Parallax. Il avait déclaré, mais c'est une pratique interdite par la loi quand on est membre du gouvernement, puisqu'il a cumulé les deux fonctions et les deux rémunérations pendant 3 mois. Là, c'est grave quand même.
Et soyons précis, cette rémunération, cette activité dont vous parlez, vous l'avez dit d'ailleurs, il l'a déclarée. Il l'avait déclarée. Elle était publique d'ailleurs. Il l'a déclarée à l'instance qui est en charge
oui.
de
tout C'est ça elle là. Qui a pas fait son boulot.
En tout cas, de bonne foi, il l'a déclarée. Et puis, a posteriori, on s'est rendu compte que cela n'était pas compatible.
Mais vous savez,
vu comme non compatible, il a démissionné. Il s'est même engagé à rembourser les sommes.
Comment a-t-il pu ignorer la loi fondamentale ? Vous savez, vous, depuis que vous êtes nommé au gouvernement, que vous ne pouvez pas percevoir d'autres rémunérations ?
Mais encore une fois, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Il a fait une erreur. Je ne sais pas le dire autrement. Il a fait une erreur. Il l'a corrigée, il l'a reconnue. Mais après... Il faut proportion garder aussi. Et je vous remercie parce que vous avez été très précis dans vos questions. Il y a des mandats qui sont, dans leur grande majorité, des mandats de bénévoles, dans des fondations, dans des orchestres. Et puis, le mandat où il y a rémunération, celui-ci, il l'avait déclaré. En revanche, a posteriori, il a été indiqué que ça n'était pas compatible. Dès qu'il l'a su, il a démissionné et il s'est engagé à rembourser
les
sommes.
Alors, toujours sur ce dossier, on saura mercredi si la Haute Autorité décide de saisir, oui ou non, le parquet dans cette affaire. En attendant, Anticor a déjà un point de vue très précis sur le sujet. Pour son président, Jean-Christophe Picard, et bien Jean-Paul Delevoye est déjà discrédité. Écoutez.
Au bout d'un certain nombre d'omissions, la bonne foi, elle est quand même à relativiser. Alors, si un membre du gouvernement n'arrive pas à remplir un papier de 5 pages, il faut pas le choisir. Là, on est quand même sur des choses assez faciles. On demande à la personne de citer les emplois actuels et les emplois exercés sur les 5 dernières années. S'il n'y arrive pas, c'est qu'il n'est pas à la hauteur pour exercer les fonctions importantes de membre du gouvernement. Il y a des conseillers, il peut être conseillé par la Haute Autorité, enfin à un moment donné, il faut quand même assumer ses responsabilités.
Souhaitez-vous que la justice se prononce ?
C'est pas à moi de le dire. Anticor est dans son rôle. Anticor a des propos qu'il tienne régulièrement. Voilà, encore une fois, vous savez, quand vous faites ces déclarations, il n'a pas déclaré des mandats qui, pour la plupart, sont des mandats bénévoles sur parfois des associations, parfois des groupes de réflexion. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'aujourd'hui, il les a reconnus, ces erreurs, il les a corrigées. Et je crois, encore une fois, profondément dans sa bonne foi. Je le connais depuis longtemps et je le crois profondément.
Bon, je vous rassure, on va pas vous poser des questions sur Jean-Paul Delevoye jusqu'à 9h, Julien de Normandie, mais
je pense que c'est pas ça.
Il en reste quand même, on va parler de la réforme, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi, mais il reste quand même une interrogation, justement, le concernant. Il a reconnu une erreur, vous l'avez dit. Il s'est engagé à rembourser les sommes. Le Premier ministre lui accorde sa confiance dans le Parisien. Aujourd'hui, en France, ce matin, il est face à des citoyens et des lecteurs. Il fait confiance à sa bonne foi. Il lui réaffirme son soutien. Est-ce que, malgré tout, il reste crédible comme interlocuteur majeur sur le sujet des retraites, Jean-Paul Delevoye?
J'ai aucun doute là-dessus. Pourquoi?
Parce que les syndicats vont s'engouffrer là-dedans.
Je pense pas tous, et puis pas celles et ceux qui le côtoient depuis maintenant 2 ans, qui connaissent son immense expertise sur le sujet, qui ont pu constater tout le travail qu'il mène depuis 2 ans, et je peux vous dire qu'il n'a pas chômé, que c'est quelqu'un qui est extrêmement reconnu par ses compétences dans ce domaine qui est le domaine des retraites. Donc en aucun cas, à mes yeux, il ne serait pas à même de continuer à mener cette réforme si importante pour les Français, et je crois que c'est vraiment ça qui intéresse les Français.
C'est le 11e jour de grève dans les transports publics, pas d'amélioration ou très peu aujourd'hui, une manifestation à l'appel de tous les syndicats mardi et une opinion qui, pour le moment, soutient majoritairement les grévistes. Est-ce que vous n'avez pas complètement sous-estimé l'opposition à cette réforme des retraites ?
Non, je pense pas. On s'attendait à ces oppositions fortes. Pourquoi ? Parce que on fait une transformation qui est très importante du régime de retraite. On met fin aux régimes spéciaux. Quand vous mettez fin aux régimes spéciaux, évidemment que vous avez un certain nombre de personnes qui vont manifester parce qu'ils veulent les préserver. On crée un système qui est un système avec de nouvelles avancées sociales profondes pour les femmes, pour les agriculteurs, les indépendants, pour les petites retraites. Mais tout ça, ça nécessite quoi ? De transformer en profondeur le système, c'est ce qu'on fait. Quand vous transformez en profondeur le système, il faut le courage de le faire, c'est plus dur, et puis ça peut amener à des inquiétudes ou des oppositions.
Et justement, on va continuer à en parler avec vous, Julien de Normandie, jusqu'à 9h sur France Info. Édouard Marguier est là d'abord, à 8h40, pour le point sur l'info.
Le sud-ouest toujours en vigilance en raison des inondations. 9 départements sont en alerte. Une deuxième personne est morte après ces intempéries. Un homme de 76 ans emporté par un ruisseau en crue dans le Lot-et-Garonne. La bonne foi de Jean-Paul Delevoye est totale. Le Premier ministre apporte son soutien à son haut commissaire aux retraites. Il le dit dans Le Parisien aujourd'hui en France. Après ce soutien du chef du gouvernement, Jean-Paul Delevoye déclare finalement 13 mandats dont 11 bénévoles en plus de ses fonctions au gouvernement. Il regrette une erreur qu'il estime avoir réparé et veut continuer à défendre le projet de réforme. Comment a-t-il pu en oublier autant, s'interroge sur France Info le député François-Michel Lambert. La grève continue et le patron de la CFDT redit qu'il faut retirer l'âge pivot. Un point, c'est tout, déclare Laurent Berger dans le journal du dimanche. Ensuite, son syndicat portera un autre regard sur le projet de loi. La Coupe du monde de ski alpin à Val d'Isère, le slalom est reprogrammé à ce matin, reporté car hier le vent soufflait trop fort. Départ de la première manche dans 1 heure. Seconde manche à midi et demi.
France Info. Et tout est plus clair.
Le 8h30 France Info avec Myriam Ankawa et avec ce matin le ministre du Logement, Julien de Normandie. On parlait du contexte évidemment de cette réforme et de l'opposition qui se manifeste sous différentes formes en France. Il y a ces images de la ministre des Sports exfiltrée d'un match du Red Star vendredi soir. On la voit chahutée, malmenée par des supporters. Il y a aussi cette députée de La République En Marche, Corinne Vignon. Elle a dû annuler une réunion publique à Bernay sur les retraites, perturbée par des syndicalistes qui scandaient Macron démission. Vous ne craignez pas qu'il y ait c'est déjà parfois le cas aussi, mais qui est ce front de mécontentement qui se dresse devant vous aujourd'hui, et notamment vous, élu et ministre, et sur cette réforme que vous devez défendre.
Faut faire attention à un point. Derrière ces images, à chaque fois, ça ne sont pas toutes les personnes qui ont ce comportement-là.
C'est une minorité, absolument.
C'est une minorité, et cette minorité...
Mais ça dit quelque chose.
Oui, ça dit quelque chose. Mais encore une fois, quand aujourd'hui vous avez un système qui est fondé sur des régimes spéciaux, qui aujourd'hui, ceux qui nous entendent, peut comprendre que on n'a pas tous les mêmes droits, que parfois, Prenons un chauffeur de bus, en fonction du lieu où vous travaillez, si c'est à Paris ou si c'est au Havre ou à Lyon, vous partez parfois avec un écart de 10 ans à la retraite. Qui peut comprendre ça? Et donc, aujourd'hui, on affronte de face, on a le courage de le faire, de dire il faut mettre fin à ces régimes spéciaux.
Et en même
faut
temps,
donner
vous dites,
droits, faut donner les mêmes droits
à chacun. La porte
de
la discussion reste ouverte.
Oui, mais c'est ça.
Alors, on veut savoir sur quoi précisément ce matin.
Vous avez d'un côté, on a le courage de porter cette réforme, de donner ces nouveaux acquis sociaux. Et ça, sur ce point-là, par exemple, avec la CFDT, on se retrouve. La CFDT, ça fait 10 ans qu'elle attend cette réforme sur le
front. Est-ce que vous êtes prêt à lâcher du lest sur l'âge pivot? Vous avez entendu Laurent Berger, il exige le retrait de l'âge pivot à 64 ans, un point c'est tout. Est-ce que c'est négociable?
Mais on l'a toujours dit, on a été très clair, l'âge d'équilibre, cet âge pivot, ça n'est pas une fin en soi, c'est une modalité, c'est une proposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette réforme, il faut que vraiment chacun le comprenne, cette réforme des retraites, pour la première fois, on change les choses pour que les retraites soient beaucoup plus justes, pour qu'on puisse, je termine parce que c'est très important, pour qu'on puisse donner au moins 1000 euros à chacun qui aura cotisé toute sa vie, pour qu'on puisse réduire cet écart insupportable entre les hommes et les femmes. Quand vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des dépenses nouvelles, évidemment, et c'est très bien puisque c'est pour réduire ces inégalités. Notre responsabilité, c'est de dire...
Les Français l'ont compris.
Mais notre responsabilité, c'est là où on est en différence avec, par exemple, la CFDT. Notre responsabilité, c'est de dire à ces droits nouveaux, il y a des dépenses supplémentaires et donc il nous faut d'ores et déjà prévoir le financement.
Ma question, c'est est-ce que vous êtes prêt à renoncer, oui ou non,
mais on ne
à
renoncera
cet âge
pas,
pivot,
on ne
oui ou non?
On ne renoncera pas à l'équilibre. Je ne peux pas être plus clair. On ne renoncera pas à l'équilibre. On est ferme sur la nécessité, puisqu'on donne des droits nouveaux, d'avoir un système équilibré. Mais on ne le fait pas pour se faire plaisir, bon sang. On le fait parce que si on n'avait pas cette responsabilité-là, ce serait de la dette pour nos enfants et nos petits-enfants. C'est inconcevable. Maintenant, on a fait une proposition aux partenaires sociaux. On leur dit, nous, on propose l'âge d'équilibre. Si vous trouvez un meilleur moyen, vous avez plusieurs mois, même plus d'un an pour le faire. On prend votre proposition. Voilà, on ne peut pas, là aussi, avoir meilleure méthode, il me semble.
Julien Denormandie, on va vous faire écouter sur ce sujet quelqu'un que vous connaissez bien. C'était le 25 avril dernier.
Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite.
Alors je précise aux gens qui nous écoutent à la radio qu'il s'agit d'Emmanuel Macron, si jamais il ne l'avait pas reconnu. Il a changé d'avis sur l'âge pivot?
Mais il parle de l'âge légal. Cette vidéo tourne en boucle depuis 24 heures. Mais on est très cohérent par rapport à la ligne. D'ailleurs, ça ne va pas vous étonner. Le président de la République, il fixe une ligne et le gouvernement, il est chargé de mettre en œuvre cette ligne. Le président de la République, dans le passage que vous venez de dire, il parle de l'âge légal, 62 ans. On n'y touche pas à cet âge légal. C'était d'ailleurs une promesse de campagne.
Officieusement, on incite à travailler jusqu'à 64.
Mais pas officieusement, on assume tout, on le dit. On dit il y a un âge légal. Il est à 62 ans. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'en moyenne, les personnes, notamment ce qu'on appelle le régime général, ils partent à 63 ans et demi. On instaure un système de bonus-malus en disant à chacun, si vous travaillez au fur et à mesure, progressivement, un peu plus longtemps, à ce moment-là, ça permet d'avoir tous ces nouveaux droits sociaux, de les financer, et d'autre part, ça permet de se conformer avec une réalité qu'on observe au jour le jour. Je crois que les Français, ils comprennent que progressivement, petit à petit, il va falloir travailler un peu plus. Là aussi, pas pour se faire plaisir, vous savez, faut avoir le courage quand vous êtes un gouvernement pour dire ça à tous les Français. Pas pour se faire plaisir, tout simplement pour avoir un système de retraite stable, pérenne, avec des nouveaux droits, et qui ne repose pas sur un financement par nos petits-enfants et nos enfants.
Alors, Myriam, vous répétez que la porte est ouverte, qu'il y aura des garanties et des compensations, notamment pour les perdants du nouveau système, parce qu'il y en a, à commencer par les enseignants. C'est encore très flou. Là, vous renvoyez à une négociation avec les syndicats d'enseignants, mais vous comprenez que pour ceux qu'on n'a pas augmenté depuis des années, parce que le point d'indice était gelé, qu'on leur explique qu'on va les augmenter pour que leur pension ne baisse pas, ça puisse irriter quand même.
Oui, et c'est un point fondamental, c'est, vous savez, c'est la confiance entre la parole politique, la parole publique et celles et ceux pour qui on l'adresse. Et on le voit, moi je le retiens notamment de ces derniers jours, le fait que la confiance dans cette parole, elle est souvent remise en cause. Et à mes yeux, ça nous interpelle, nous tous. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire vis-à-vis des enseignants? Les enseignants, je le redis, ce sont des gagnants dans la réforme. Non seulement on s'est engagé à faire en sorte que leur pension ne diminue en rien, et en plus, pour ce faire, on va dire qu'on va augmenter leur salaire durant leur vie active.
Mais vous comprenez qu'ils puissent en douter.
Et pour,
ça veut
pour
dire
justement
que vous allez augmenter quoi budgétairement,
budgétairement
en 10 ans non, les salaires de tous les fonctionnaires non, on a les moyens de faire ça
On ne va pas le faire dans 10 ans, on va le faire dès maintenant. Et d'ailleurs, comment on va le faire pour que, comme on dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Comment on va le faire? On le mettra dans la loi. On le mettra dans la loi. Parce que c'est important que ce soit gravé dans le marbre, si j'ose dire, en le mettant dans la loi. Mais vous savez, on a eu la même chose avec les policiers. Les policiers, le ministre de l'Intérieur leur a écrit récemment. Et beaucoup d'entre eux ont dit, écoutez, on arrête le mouvement parce que apparemment on aurait été entendu. Mais enfin, ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, c'est ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Juste, on a une particularité, c'est que généralement, on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire et ce qu'on va faire aussi pour les enseignants.
Alors, il y a un autre sujet dans le sujet, et c'est celui des fêtes de Noël, des vacances, les trains, la SNCF, en tout cas la directrice générale de Voyage SNCF, hier, c'était aussi dans les colonnes du Parisien, promettait que la moitié des Français qui avaient réservé un train pourraient partir, qu'il y aurait des aménagements et des alternatives pour les autres, ceux qui verraient leur train annulé. On aura des nouvelles de ça dans la semaine. C'est important, Noël, c'est un symbole, et plus, je ne crois pas que les Français accepterait que certains puissent les priver de ce moment, dit Édouard Philippe. Le gouvernement reste ferme, les syndicats restent fermes, ils n'annoncent pas de trêve pour Noël. Comment est-ce qu'on sort de ça? Comment est-ce qu'on sort de ça?
Alors, pour le coup, chacun a ses responsabilités. Bien sûr. Je crois que là aussi, tout le monde le conçoit. Et d'ailleurs, tous les syndicats n'appellent pas à faire une grève à Noël. La CFDT,
j'ai dit les syndicats pour
généraliser. La CFDT, ce matin, dit clairement qu'il faut une trêve pendant les périodes de Noël.
Non, mais comment on en sort, là?
Parce que on en sort,
ça paraît une impasse.
On en sort, moi, je pense, d'abord par un esprit de responsabilité. Qui peut comprendre que pendant les fêtes de Noël, pour essayer de se faire entendre, on va bloquer celles et ceux qui veulent passer ces moments familiaux? Moi, cette idée, elle m'est insupportable, je crois, comme beaucoup de Français. Et deuxième élément, ça, c'est la responsabilité du gouvernement, c'est ce qu'a proposé le Premier ministre, c'est de poursuivre dès les prochains jours, dès cette semaine, les discussions avec les organisations syndicales pour essayer de construire ce chemin en commun sur cette réforme.
Julien de Normandie, est-ce que vous pensez, pour ne pas dire espérer, que si jamais de nombreux Français ne peuvent pas partir en famille fêter Noël, ils vont se retourner, leur opinion va se retourner contre les syndicats?
Non, parce que vous savez, vous ne faites jamais... Cette réforme, c'est une réforme pour les Français, ça n'est pas une réforme qui va se faire contre eux. Et donc, on peut pas se dire on fera la réforme parce qu'au bout d'un moment, les Français seront exaspérés par le comportement de certains qui les empêchent d'aller passer le moment familial si important qu'est Noël. Donc non, en rien, je ne mise là-dessus.
Maintenant, c'est un
constat et je crois que beaucoup de Français, comme nous ici ce matin, on considère que ces moments de fête familiale, il faut que chacun puisse y aller. Donc j'appelle évidemment à la responsabilité.
Julien de Normandie sur France Info, Myriam Ankawa et Édouard Marguier qui est là pour l'info. On se retrouve tout de suite, il est 8h51.
Face à la pression, le haut-commissaire aux retraites fait une nouvelle déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Jean-Paul Delevoye dit occuper 13 mandats, dont 11 bénévoles, en plus de ses fonctions au gouvernement. C'est une faute, mais il doit finir sa mission, réagit sur France Info le député LREM Patrick Vignal. Le Premier ministre est sur la même ligne. Sa bonne foi est totale. Édouard Philippe, qui demande des transports à Noël, il en appelle à la responsabilité de tous dans Le Parisien aujourd'hui en France. C'est aujourd'hui le 11e jour de grève. La mobilisation et les perturbations à la SNCF et à la RATP reste importante. Il faut retirer l'âge pivot de la réforme. Un point, c'est tout, déclare Laurent Berger, le patron de la CFDT, dans le journal du dimanche. Les intempéries dans le sud-ouest, 9 départements sont en vigilance orange aux inondations. Des inondations qui ont fait un deuxième mort, un homme de 76 ans emporté par un ruisseau en crue dans le Lot-et-Garonne. Pour l'honneur, mais ça fait le bonheur du PSG, sacré champion d'automne. Titre pour le leader de la Ligue 1 de football à la mi-saison. Sacré grâce à un match nul de Marseille à Metz, un partout. Les Parisiens jouent à 21h à Saint-Etienne.
France Info. et tout est plus clair.
Merci Edouard. Myriam Ankawa et le ministre du Logement, Julien de Normandie.
Alors face à l'inquiétude, même l'anxiété suscitée par cette réforme, le simulateur officiel est très attendu des Français. Chacun veut savoir évidemment si sa pension sera la même ou pas dans le nouveau système. Et finalement, ce simulateur ne pourra pas être présenté avant l'entrée en vigueur de la réforme, et même dans les mois qui vont suivre l'entrée en vigueur, donc dans très longtemps. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que les Français n'ont pas le droit à un outil fiable dès maintenant?
Si, il faut absolument, et je crois que là aussi les dernières semaines l'ont montré, il faut absolument que chacun puisse comprendre en quoi cette réforme va leur apporter. Et donc ça passe par un simulateur.
Techniquement, ce ne sera pas possible. Le Premier ministre le dit dans
Alors,
le Parisien.
On va être très clair. Ce simulateur, l'objectif, c'est qu'il puisse être disponible le plus vite possible début 2020, donc dans les prochains mois. Et d'ici là, le Premier ministre l'a annoncé ce matin, d'ici le 18 décembre, l'objectif, c'est, en attendant ce simulateur, de donner à chacun ce qu'on appelle des cas types. On puisse s'identifier à ces cas types, c'est-à-dire dire je suis enseignant, j'ai 3 enfants, j'ai tel âge, en quoi la réforme va m'apporter des éléments nouveaux. Et ça, ces cas types, on les aura dans les tout prochains jours. Le Premier ministre a demandé de les avoir avant le 18 décembre, donc dans les tout prochains jours. Pourquoi le simulateur, c'est plus compliqué? Parce que, évidemment, cette réforme, c'est une réforme qui a des aspects très techniques. On parlait des enseignants. Les enseignants, ça va dépendre de l'évolution de leur salaire mois par mois, année après année. Et donc tout ça, il faut finir les discussions avec les organisations syndicales ou avec les branches professionnelles. Donc on ne pourra avoir ce simulateur à l'euro près, si j'ose dire, qu'une fois toutes ces discussions terminées. Ça, je crois que tout le monde le comprend. Mais d'ici là, on va mettre en place ces 4 types qui sont extrêmement importants pour donner la visibilité.
Dans ce contexte de blocage des transports à Paris, les transports urbains, mais aussi de la plupart des trains de la desserte SNCF, on a appris hier que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et c'est une première en France, avait voté pour ouvrir ses trains à la concurrence. Alors, c'est pas tout de suite, mais dans ce contexte qu'on connaît de grève et de blocage des transports, qu'est-ce que ça vous inspire, cette ouverture à la concurrence? Est-ce que vous faites un lien dans votre tête avec ce qui se passe en ce moment?
Non, je fais pas de lien, mais après, je mets en avant, en revanche, tout le travail profond de refonte du système ferroviaire que ce gouvernement a entrepris depuis 2 ans, que ce soit sur le statut des cheminots, que ce soit sur l'évolution de l'entreprise SNCF. Et ça, je crois qu'on l'a bien vu. Il y a là aussi un an et demi, beaucoup nous disaient « ça ne sera pas possible de faire cette réforme de la SNCF, c'est trop compliqué ». Ben, on l'a fait. Et vous savez, la réforme des retraites, moi j'insiste sur un point parce que je me suis interrogé sur le fait que le Parti Socialiste et les Républicains, les deux étaient très opposés à cette réforme. Et regardez, et j'appelle tout le monde à faire juste à tourner le regard vers l'arrière et regarder les réformes par le passé. Vous avez la réforme Fillon en 2003, vous avez la réforme Woerth en 2010, vous avez la réforme Touraine en 2013. Toutes ces réformes, qu'elles aient été portées par le Parti Socialiste ou par les Républicains, avaient toutes la même finalité. C'était quoi? D'allonger l'âge de départ légal à la retraite.
Mais là, et j'insiste, Normandie,
c'est ça l'immense différence. Et je crois qu'il faut vraiment, on a le courage pour la première fois de faire une réforme qui est une réforme de fond où on donne à chacun les mêmes droits. C'est-à-dire que pour la première fois, on va réduire les injustices pour les femmes qui ont 40% de moins.
Mais ce que votre propre camp reproche, prenez par exemple les économistes qui ont fait...
Mais c'est très important de montrer que le PS et les Républicains sont contre parce qu'ils n'ont pas eu le courage de faire la réforme qu'on fait aujourd'hui.
Si on regarde les économistes qui ont élaboré cette réforme des retraites, ils le disent publiquement, il ne faut surtout pas mettre une mesure d'âge paramétrique, comme on explique, avec ce système universel. Il ne faut pas faire les deux choses en même temps. Vous avez des députés marcheurs qui pensent la même chose et qui le disent quasiment ouvertement. Pourquoi vous faites ça?
Mais parce que vous
sur
savez
les deux jambes.
Mais parce que
pourquoi Édouard Philippe et
parce
Emmanuel
que vous savez
Macron,
vous
finalement.
Expliquer à celles et ceux qui nous écoutent là, vous savez leur expliquer, écoutez, on va faire une réforme. Encore une fois, on a le courage, la première fois, de faire une réforme qui revoit le système pour lutter contre les inégalités. Deuxièmement, on va vous donner de nouveaux droits, mais des droits importants, un minimum de 1 000 euros. des droits très importants, l'ouverture à certains de régimes qu'ils n'avaient pas. Les 20% des femmes sont obligées d'aller travailler jusqu'à 67 ans pour ne pas avoir de décote.
Ils pourront partir
3 ans avant. Mais ça, imaginez la crédibilité qu'on aurait en disant on ouvre tous ces droits. Mais alors, par contre, la question de savoir comment on finance,
vous ne croyez pas qu'avec toutes les garanties que vous allez donner, les compensations financières, vous allez aussi créer du déficit qui sera peut-être supérieur au financement?
Précisément pas. C'est pour ça qu'on dit que face à ça, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 3 options. C'est assez simple. Vous augmentez les cotisations. Personne ne le souhaite. Vous diminuez les pensions. Personne ne le souhaite. Ce serait de la folie. Et donc, la troisième possibilité, c'est quoi? C'est dire que chacun, progressivement, petit à petit, on devra travailler un peu plus longtemps. Moi, je suis persuadé que les Français, ils en sont conscients. Et d'ailleurs, dans les fêtes, on voit que de plus en plus, ils travaillent longtemps.
En tout cas, merci d'être venu ce matin à France Info, Julien de Normandie, pour expliquer cette réforme. On l'a fait pendant 23 minutes. Merci d'être venu ici, ministre du Logement. Merci, Myriam Ankawa, d'avoir été également avec nous. Demain, vous retrouvez Marc Fauvel et Renaud Dely pour le 8h30 France Info. Excellente journée à toutes et à tous.
Et l'info politique, n'oubliez pas, c'est aussi un podcast original sur France Info, Paris, la bataille, le feuilleton des municipales. Un nouvel épisode tous les vendredis, un podcast à écouter sur franceinfo.fr, disponible aussi sur l'application Radio France.